Des informations avec Hélène Fromanti. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Antoine, bonsoir à toutes et à tous. La France dira bientôt adieu à ses 42 régimes de retraite. C'est en tout cas ce que préconise la commission en charge de cette épineuse réforme. Dans ce journal, nous reviendrons sur l'une des mesures phares du rapport rendu public aujourd'hui, l'âge d'équilibre à 64 ans. On les surnomme les médailles de la honte. Nous reviendrons sur ces récompenses pour policiers mobilisés pendant les manifestations de Gilets jaunes, des agents pour certains suspectés de violences illégitimes. À la une également, les pays du G7 finances qui se rapprochent d'un accord international pour mieux imposer les multinationales, dont les GAFA. Marie Viennot nous expliquera. Et puis, la guerre des tankers relancée dans le Golfe. L'Iran assure détenir un navire étranger dans le détroit d'Ormuz. Après 18 mois de concertation, les contours de notre futur système de retraite commencent enfin à s'éclaircir. La commission chargée de la réforme a rendu sa copie ce matin. Terminer les 42 régimes spécifiques à compter de 2025. C'est un régime universel par points qui va progressivement entrer en vigueur. La question qui a peut-être cristallisé les débats ces derniers mois, c'est celle de l'âge de départ. Sur ce point, le haut commissaire préconise un âge d'équilibre fixé à 64 ans pour tous, accompagné d'un mécanisme de décote et de surcote, un fonctionnement beaucoup plus juste, assure Jean-Paul Delevoye.
Ça permet de répondre aux retraites partielles, aux parcours heurtés et notamment à la situation dans laquelle beaucoup de femmes se trouvent. On permet de répondre aux longues études, puisqu'il n'y a plus besoin d'aller jusqu'à 67 ans, chacun pourra se référer par rapport à un âge à taux plein collectif, et il évoluera en fonction de l'espérance de vie. Et donc, nous avons voulu apporter une solution qui, socialement, nous paraît juste, budgétairement et financièrement solide, et qui conforte la liberté de choix de chacun de pouvoir choisir le moment de son départ à la retraite en fonction d'un arbitrage personnel qu'il souhaite faire entre la durée de sa vie à la retraite et le niveau de sa pension.
Jean-Paul Delevoye qui a présenté ce matin ses pistes de réforme directement aux partenaires sociaux. Lisa Guyenne, bonsoir.
Bonsoir.
Sans surprise, les syndicats ne voient pas cet âge d'équilibre du même œil.
Oui, du côté de la CFDT d'abord, Laurent Berger, son secrétaire général, estime qu'il aurait fallu plus de souplesse au lieu de fixer le même âge pour tous.
Pour liquider sa retraite, on le sait aujourd'hui, c'est autour de 63 ans la liquidation pour une carrière complète, une retraite complète. Il y a aussi ceux et celles pour qui c'est 67 ans. Nous, on n'oublie pas ça. On ne dit pas que le système actuel, il est juste et il est parfait. Loin s'en faut, il est très injuste. Nous avons dit au commissaire, et nous le redirons dans les concertations, qu'il ne faut pas fixer cet âge pour tout le monde. Il faut le laisser à la libre situation de chacun des salariés. C'est ce que nous porterons dans ces concertations à venir.
Et l'autre problème, c'est qu'en théorie, l'âge légal reste fixé à 62 ans, mais c'est seulement à partir de ces 64 ans qu'on pourra toucher la retraite à taux plein, une manière déguisée de reculer l'âge effectif de départ, selon Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière.
Les 62 ans ne sont plus l'âge de la retraite comme on le croyait ou comme on le pensait aujourd'hui. Ça deviendra l'âge minimum de l'ouverture de droits, mais de droits qui ne suffiront pas de moins en moins dans le futur à garantir une pension décente. Donc qui imposeront, ça ne sera pas une incitation, ça imposera de devoir continuer de travailler pour acheter des points et partir plus tard pour pouvoir bénéficier d'une pension décente. Il y a un problème, un enjeu de société.
À noter que rien de tout cela n'est encore définitif, c'est le gouvernement qui devra trancher, retenir ou modifier les préconisations de Jean-Paul Delevoye. Pour l'instant, en tout cas, ce seraient les personnes nées à partir de 1963 qui seraient concernées.
Merci Lisa Guyenne. Nous reviendrons largement sur ce projet de réforme dans le grain à moudre d'été, juste après ce journal avec Antoine Genton. Pas de vacances pour les réformes, pas de vacances non plus pour les journalistes de Mediapart. Le site d'information en ligne a fait de nouvelles révélations ce matin, non pas sur François de Rugy, mais sur Christophe Castaner. L'article revient sur un arrêté de la mi-juin dans lequel le ministre de l'Intérieur décerne la médaille de la sécurité intérieure à de nombreux policiers mobilisés lors de manifestations de gilets jaunes. Une promotion exceptionnelle, car d'habitude, ces récompenses sont remises le 1er janvier et le 14 juillet. Le hic, c'est que dans la liste des fonctionnaires décorés, plusieurs noms interpellent, comme l'explique Pascal Pascariello, journaliste à Mediapart à l'origine de ces révélations. Elle répond à Rosalie Lafarge.
On retrouve le commissaire Abbasouchi, donc c'est lui qui donne l'ordre à Nice de la charge qui a provoqué les graves blessures sur Geneviève Leguet. On retrouve également Bruno Félix, qui est l'un des CRS qui commande justement les auteurs des tirs qui ont causé le décès de Zineb Redouane à Marseille. On a relevé plus de 5 commissaires qui sont impliqués dans des violences policières où des enquêtes sont en cours. Donc c'est une promotion qui interpelle. Hein. Même sur le procédé, hein, comment cette promotion a été faite, ça peut interpeller puisque l'appel est lancé pour essayer de trouver les policiers qui ont été blessés durant le mouvement. Sauf que faute d'avoir suffisamment de candidats, on est obligé d'élargir cette promotion au plus grand nombre. Et on retrouve donc un mail qui explique bon, on n'a pas suffisamment de réponses, on ouvre les candidatures aux policiers blessés non méritants. Et puis finalement, il n'y a pas assez de policiers blessés, donc on ouvre à tous les autres policiers, y compris ceux qui sont impliqués dans les violences policières.
Et de son côté, le ministère de l'Intérieur l'assure, si une personne décorée se retrouve condamnée par la justice ou par une sanction disciplinaire, la médaille de la sécurité intérieure lui sera retirée. Dans une toute autre enquête publiée aujourd'hui, Mediapart affirme que des taux de concentration au plomb très supérieurs au seuil d'alerte ont été relevés dans les écoles entourant Notre-Dame de Paris, 3 mois après l'incendie dans l'édifice. Faux, répond la mairie de Paris, qui assure que les prélèvements effectués ne justifient aucune alerte. Il n'y a aucun risque de pollution, ajoute la municipalité, qui va quand même organiser un nettoyage approfondi de ces établissements scolaires. Une opération de routine sans lien avec l'incendie, précisent les services de la ville. Les algues vertes ne sont pas en cause dans le décès de l'ostréiculteur mort brutalement au début du mois dans la baie de Morlaix, dans le Finistère. C'est ce que révèlent les résultats de l'autopsie, annonce le parquet de Brest, sans pour autant préciser les causes du décès. De l'eau avait été retrouvée dans les poumons de ce jeune homme, ouvrant la piste d'une intoxication à l'hydrogène sulfuré. France Culture s'était rendue sur les lieux la semaine dernière. Le reportage de Véronique Roberot est à retrouver sur notre site internet. Les autoroutes françaises ne seront bientôt plus payantes pour les sapeurs-pompiers. Les sociétés autoroutières vont concéder la gratuité à tous les véhicules prioritaires en intervention, d'abord dans les Alpes-Maritimes et à terme dans tout l'Hexagone. Jusqu'à maintenant, les pompiers étaient exonérés de péage seulement s'ils intervenaient sur le réseau autoroutier. Un pas vers un accord international pour que les multinationales, notamment les géants du numérique, payent leur juste part d'impôts. Au terme d'une nuit de négociations, les pays membres du G7, dont la France réunie à Chantilly, dans l'Oise, ont finalement trouvé un consensus sur la question. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
On peut parler d'une avancée, Marie, mais il reste encore du travail avant d'aboutir à un texte d'accord.
Oui, l'avancée, c'est que jusqu'à maintenant, les discussions sur la fiscalité des multinationales ont surtout cherché à réduire les possibilités d'optimisation agressive. Là, on parle de changer les règles de taxation à la racine. Alors, il y a toujours deux choses à considérer quand on parle d'imposition, c'est le taux et la base imposable. Ce sur quoi les pays du G7 ont trouvé un accord, c'est le principe d'un taux minimal d'imposition effectif. L'idée, c'est que les entreprises multinationales ne puissent pas s'en tirer avec un impôt nul ou minimal et que si elles font des bénéfices à l'étranger, ces bénéfices soient au minimum taxés à X% quand ils seront rapatriés dans le pays où l'entreprise a son siège. Le taux reste bien sûr à déterminer, mais que ce principe soit acté entre les 7 pays les plus riches de la planète, c'est un pas en avant. Ensuite, il y a donc la base imposable. Qu'est-ce qu'on taxe et comment on fait pour les entreprises du numérique qui font des profits dans des pays où elles n'ont pas de présence physique? Là, le G7 dit oui, on va discuter de nouvelles règles. Oui, il faut de nouveaux critères tenant compte du nombre de clients ou d'utilisateurs qu'une entreprise a dans un État. Mais on est encore très très loin de deal. Quelles règles? Alors la balle est maintenant dans le camp de l'OCDE qui a un mandat de 130 pays pour proposer des solutions d'ici janvier 2020. Se mettre d'accord à 7, c'était donc un minimum, mais à 130, les intérêts seront beaucoup plus divergents.
Merci Marie Viennot. Et le G7 Finance a également exprimé ses réserves sur Libra, ce projet de crypto-monnaie porté par Facebook. Il souhaite qu'un cadre réglementaire soit défini avant qu'un tel instrument voie le jour. Nous vous en parlions dans le journal de midi et demi sur France Culture, cet incendie qui a ravagé un studio d'animation à Kyoto au Japon. Le bilan fait désormais état de 33 morts et près de 40 blessés. Le mobile de l'incendiaire présumé est toujours inconnu. Ils étaient jugés pour l'assassinat de 2 touristes scandinaves au mois de décembre au Maroc. 3 hommes ont été condamnés à la peine de mort par un tribunal antiterroriste marocain. Les 2 jeunes femmes avaient été décapitées alors qu'elles campaient dans la région du Haut Atlas dans le sud du pays. Une expédition punitive punitive organisée au nom du groupe État islamique. Près de 3 heures pour s'expliquer devant les magistrats italiens. La jeune capitaine du navire Sea-Watch, l'allemande Carola Rackete, était auditionnée ce matin en Sicile. Audition dans le cadre d'une enquête ouverte pour aide à l'immigration clandestine. Le mois dernier, elle avait bravé l'interdiction du gouvernement italien et avait accosté de force sur l'île de Lampedusa pour faire débarquer 40 migrants. Le récit de notre correspondante à Rome, Mathilde Imberti.
Elle sort tout sourire du palais de justice d'Agrigente. Carola Rackete s'avance timidement vers le tas de micros et de caméras qui l'attendent depuis ce matin. L'interrogatoire a été long, plus de 3 heures, mais nécessaire selon la capitaine allemande.
Merci d'être tous là. Je suis très contente d'avoir eu l'opportunité aujourd'hui d'expliquer tous les détails sur le sauvetage, comment s'est déroulé le sauvetage le mois dernier. J'espère sincèrement que la Commission européenne, maintenant qu'un nouveau Parlement a été élu, fera son possible pour éviter que des situations de ce genre ne se reproduisent pas. J'espère que tous les pays européens travailleront ensemble à l'avenir pour que toutes les personnes sauvées en mer par des navires civils soient acceptées.
Carola Rackete risque en théorie jusqu'à 15 ans de prison pour aide à l'immigration clandestine. C'est la première fois en Italie qu'un capitaine de navire d'ONG est poursuivi à ce titre. Pour Matteo Salvini, les ONG sont complices des passeurs et Carola, une criminelle. Le parquet d'Agrigente rendra sa décision dans plusieurs jours sur la suite à donner à cette affaire, devenue symbole du sursaut citoyen face à la fermeture des ports en Italie et l'inertie de l'Europe.
Et le procureur pourrait décider soit d'un classement sans suite de cette affaire, soit d'un procès pour Carola Rackete. 2 semaines après l'arraisonnement d'un tanker iranien par les forces britanniques au large de Gibraltar à la pointe sud de l'Espagne, l'Iran affirme à son tour détenir un navire citerne étranger dans le détroit d'Ormuz. Selon les gardiens de la révolution iranien, ce bateau se livrait à de la contrebande de carburant dans le Golfe. Preuve, s'il en fallait une, que la tension ne retombe pas dans le secteur. Christian Cheneau.
En plein bras de fer entre Téhéran et Washington sur le dossier nucléaire, la guerre des tankers continue dans le détroit d'Ormuz. Dans le dernier épisode, c'est l'Iran qui est passé à l'offensive. Les gardiens de la révolution ont arraisonné un pétrolier d'une capacité de 2 millions de barils et interpellé ses 12 membres d'équipage. Le navire, dont le nom et le pavillon n'ont pas été divulgués, se livrait à de la contrebande de carburant, affirment les autorités iraniennes. Selon des spécialistes de la navigation commerciale, il pourrait s'agir du Riyah, battant en pavillon panaméen qui avait l'habitude d'effectuer des allers-retours à travers le golfe Persique pour ravitailler d'autres navires. Depuis l'arraisonnement, le 4 juillet dernier, du Grasse 1 en Méditerranée, la tension est montée d'un cran. Ce tanker qui transportait du pétrole iranien à destination de la Syrie a été arraisonné par les autorités de Gibraltar, épaulé par des commandos marines britanniques. Depuis cette interception, qualifiée d'acte de piraterie par Téhéran, les Iraniens ne décollèrent pas. Ils ont promis de répondre au moment et à l'endroit opportun, comme l'a dit le guide de la révolution Ali Khamenei. L'incident d'aujourd'hui montre que l'Iran entend bien poursuivre sa stratégie de harcèlement au moment où les grandes puissances renforcent leur présence militaire dans le golfe Persique.
Les précisions de Christian Cheneau pour France Culture. Comme tous les jours, nous retrouvons maintenant Arnaud Laporte au Festival d'Avignon. Hier, Arnaud, vous nous avez laissé avec une promesse intrigante.
Je vous l'avais en effet promis hier. Ce soir, nous traversons le miroir. On sait le goût de Masha Makayev pour les objets qui, chez elle, ont toujours une âme. Elle sait en effet les animer, tout comme les étoffes, les espaces ou les rêves d'enfants. Il y avait comme une évidence à apprendre que l'auteur, plasticienne et metteur en scène allait faire un spectacle inspiré de Lewis Carroll. Il y a bien longtemps, en effet, que Masha Makayev nous fait traverser les miroirs de ces mondes et nous entraîne aux quatre coins de la planète, au plus près des êtres. Mais les évidences peuvent être dangereuses et c'est donc avec une légère appréhension que l'on se rendait à la Fabrica où se donne ce Lewis vs Alice avant de partir en tournée dans toute la France. Comme à son habitude, Masha Makayev a signé mise en scène, costume et décor de cette production et a demandé à son collègue metteur en scène Jean Bellorini de prendre en charge la création des lumières. L'ensemble est foisonnant, saisissant, fourmille de détails et invite à la rêverie ou au cauchemar. Sur le plateau, deux Lewis Carroll, un jeune et un vieux, et deux Alice, les deux binômes s'exprimant en deux langues, le français et l'anglais. La figure du double, on l'aura compris, est très présente et renvoie notamment au reflet dans le miroir. Mêlant la biographie de l'auteur et certaines des séquences les plus célèbres du livre, Masha Makeyev nous invite à réfléchir sur le pouvoir de la langue, sur la difficulté qu'ont les êtres à se comprendre, mais aussi à exprimer leurs sentiments. La fin du spectacle n'occultera pas que c'est l'amour interdit de l'auteur pour une toute petite fille qui amena Lewis Carroll à écrire ce livre, un livre qui n'avait qu'une unique destinataire, mais qui devint un best-seller. À demain pour une devinette.
La météo pour demain vendredi, justement, le temps sera globalement nuageux, mais le soleil s'imposera largement dans l'après-midi, surtout sur la moitié sud. Il fera entre 12 et 22 degrés le matin, 21 à 34 en deuxième partie de journée.